Le silence autour d'elle est plus ancien que leurs œuvres dans les livres d'histoire de la musique. Les femmes apparaissent à peine, souvent en bas de page, dans les notes en bas de partition. Et pourtant, elles ont composé, dirigé, joué, enseigné, elles ont écrit des œuvres puissantes, novatrices, bouleversantes. Mais le récit officiel les a effacées, minimisées ou confinées au rôle d'exception, de muse, d'inspiration. La musique classique, comme tant d'autres domaines, a longtemps été un territoire balisé par les hommes, pour les hommes. Les femmes y ont été tolérés à condition d'y incarner le mystère, la grâce, l'émotion, pas le génie, pas la technique, pas la création pure. Redonner une voix à ces femmes, c'est réaccorder l'histoire, c'est faire entendre tout ce que l'on n'a pas voulu écouter. Ce soir, nous sommes dans le salon de Radio Courtoisie, Nous recevons d'illustres compositeurs, de musiciens, de chefs d'orchestre, d'interprètes. Comme tous les lundis soirs, vous y êtes invités. Vous êtes nombreux à entrer, à vous asseoir et à écouter. Je vous décris le décor pour ceux qui nous écoutent. De hautes et larges bibliothèques, des rangées de chaises, des tapis, un orgue, trois pianos, dont le piano Forte Pleyel de 1860 qui trône au milieu de la pièce. Sur ce piano, des ouvrages et des photographies parfois dédicacées d'écrivains, de compositeurs, d'admirateurs, des mots secrets, des mots doux, de beaux portraits dont ceux de Rita Stroll, Karina Gauvin, Albéna Petrovnik et Jeanne Leleu et Clara Askill. Et oui, ce soir, nous sommes dans le salon de Radio Courtoisie Féminin, un salon peuplé de femmes et pour l'imagination de déesses, de drapés, de cheveux longs, de parfums embaumants, d'élégance, une certaine beauté règne dans ce salon, une certaine discrétion, une certaine pudeur aussi. Mais aussi de l'exigence, de la détermination, du travail et beaucoup de travail. Tout cela acquis au fil des siècles pour pouvoir exister, créer aux côtés des hommes et peut-être dans un monde d'hommes. Ce salon reste confidentiel, il est rare, il est précieux et c'est vous, par votre écoute, qui amenez la lumière ce soir à la musique classique, parce que la présence des femmes dans la musique classique est réelle et ce monde est pour nous. Revenons à leur portrait. Nous allons nous approcher du piano Forte Pleyel de 1860. Nous nous approchons d'un portrait à première vue austère, une femme vêtue d'une robe noire, une croix autour de son cou. Et nous sommes en 1900, ses yeux sont loin de nous, elle n'a pas besoin de notre regard, elle n'a pas besoin de nos critiques et encore moins de notre présence. Pour nous raconter, elle nous emmène en Bretagne. Sur les terres battues par le vent de Bretagne, là où l'écume vient mourir contre les rochers et où l'océan sculpte les jours au gré de ses humeurs, née en 1865, une enfant que l'on nomme Rita Stroll. De son vrai nom, Aimée Marie Marguerite Mercedes Larousse Lavillette, elle grandit dans une famille lettrée et ouverte aux arts qui l'encourage très tôt à explorer ce langage universel qu'est la musique. Le piano comme refuge, la composition comme exutoire. Rita Stroll s'épanouit dans une époque où les femmes, bien souvent, n'ont pas encore voix au chapitre dans les sphères artistiques. Pourtant, elle s'impose. Et dès l'âge de 13 ans, elle entre au Conservatoire de Paris et croise les figures tutélaires de l'époque. Mais ce n'est pas dans les salons parisiens qu'elle ancre son âme. C'est dans le ressac de la mer, dans la mélancolie des Landes et dans le vent libre de sa Bretagne natale. Le deuil comme moteur, sa vie est marquée très tôt par la perte et le silence. Elle épouse Émile Stroll, qu'elle perd rapidement. Cette béance intime nourrira son œuvre d'une gravité poétique, d'une quête mystique où la musique devient langue des absents et des âmes errantes. C'est en 1912 qu'elle fonde avec son second époux, le peintre Richard Buxtal, le Beau Séjour, un lieu de création et de résidence artistique en Bretagne, dans une maison qui semble alors suspendue entre ciel et mer. Rita Stroll compose des mélodies, des œuvres pour piano et de la musique de chambre, mais aussi des oratorios et des opéras. Son œuvre la plus célèbre reste La Chevauchée de la Chimère, un souffle épique et onirique d'un voyage intérieur peuplé de symboles et de paysages marins. Sa musique respire l'océan et les Landes, tour à tour tempétueuse et apaisée, on y devine les influences du symbolisme, mais surtout une écriture très personnelle en marge des écoles. Rita Stroll compose pour elle-même, pour ses morts et pour cet infini qu'elle devine au-delà de l'horizon. Oubliée de l'histoire pendant des décennies, elle revient aujourd'hui grâce à quelques interprètes et musicologues passionnés qui redonnent voix à cette femme libre et indomptable et pour qui la musique fut à la fois une armure et un cri. Nous allons écouter Titus et Bérénice de 1898, la grande sonate d'un amour impossible. Dans les années 1890, Rita Stroll est une femme marquée par le deuil, mais aussi par une fièvre créatrice. Elle puise dans les grands mythes et les passions tragiques de l'histoire pour écrire sa grande sonate dramatique, Titus et Bérénice, une œuvre pour piano et violoncelle, dédiée à deux figures légendaires, Bérénice, reine de Judée, et Titus, futur empereur de Rome, contraint de renoncer à son amour pour des raisons d'État. Cette sonate, en quatre mouvements, n'est pas qu'une pièce de concert, c'est un opéra sans voix, un drame intérieur où les instruments deviennent personnages et le violoncelle avec sa chaude voix grave incarne Bérénice tandis que le piano prend tour à tour le rôle de Titus du destin et des remous intérieurs des amants déchirés. Nous allons écouter le troisième mouvement, le cœur du drame. Le piano martèle le poids de la fatalité tandis que le violoncelle supplie, rêve encore à l'impossible. C'est le renoncement, mais un renoncement arraché de force comme un voile qu'on déchire dans la tempête. Bérénice, je m'agite, je cours, languissante, abattue, la force m'abandonne et le repos me tue. Une longue lamentation d'une force inouïe, un chemin de croix qui s'amplifie puis retombe et à la fin, un coup de poignard déchirant. Grande sonate dramatique Titus et Bérénice de Rita Stroll, interprétée par Hermine Auriot, violoncelle, et Hélène Foucard au piano.
Thank you.
Nous venons d'écouter Grande Sonate Dramatique Titus et Bérénice de Rita Straul, interprétée par Hermine Oriot au violoncelle et Hélène Foucard au piano. Nous allons maintenant plonger au cœur de Rita Straul, ou plutôt nous asseoir au creux de l'âme de Rita Straul, avec Solitude, Rêverie pour violoncelle et piano. Rita Straul délaisse les grandes rames antiques pour s'enfoncer dans un espace intérieur, un paysage d'âme où le silence devient complice. Composée pour violoncelle et piano, deux instruments qu'elle maîtrise et qu'elle aime opposer et mêler, le violoncelle, voix humaine et voilée, ouvre la rêverie, son timbre grave, ample et caressant, ce que Straul cherche souvent à capter dans ses œuvres, cette plainte douce et mélancolique, ce chant sans parole qui dit l'absence et le souvenir. Le piano, discret, tisse un écrin de motifs arpégés, de résonances subtiles. On pourrait croire entendre le ressac au loin ou le souffle d'un vent tiède glissant sur les dunes. Cette pièce écrite pour les heures où la lumière baisse, où les certitudes s'effacent, pas de virtuosité gratuite ici, mais un art de l'évocation et du non-dit. Rita Straul maîtrise l'art du silence habité, elle sait où suspendre la phrase, où laisser respirer l'émotion. Solitude est comme un instant volé, un fragment de rêverie où le temps se dilue. Cette solitude n'est pas un isolement douloureux, mais un retrait du monde pour mieux écouter la voix intérieure. On y sent l'écho de la Bretagne, des promenades solitaires face à l'océan, des heures passées à converser avec les morts, avec l'absence et avec le vent. On pourrait rapprocher cette œuvre de certaines pages de Forêt ou de Massenet par son intimisme, mais elle garde ce caractère à part qu'ont les compositions de Rita Straul, un lyrisme contenu, un goût pour les climats brumeux et les horizons indécis, une musique qui semble toujours venir de loin, d'un lieu où le passé, le présent s'enlacent doucement. Solitude, rêverie pour violoncelle et piano, interprétée par Hermine Oriot au violoncelle et Hélène Foucard au piano. Nous venons d'écouter Solitude, rêverie pour violoncelle et piano, interprétée par Hermine Oriot au violoncelle et Hélène Foucard au piano. Nous sommes de retour dans notre salon où le vent a soufflé et c'est un autre portrait de la même époque qui nous appelle, celui de Jeanne Leleu. Elle est née en 1898 et sur notre portrait, elle est au piano en 1947 concentré à déchiffrer une partition et ses mains nous emmènent au pays de son enfance. Elle a 13 ans, nous sommes en 1911. Nous sommes le jour où Jeanne Leleu passe le Grand Prix du Conservatoire en jouant Camille Saint-Saëns. C'est un après-midi de juin à Paris, l'air encore tiède du printemps, quand Jeanne Leleu, toute geste adolescente, franchit les portes du Conservatoire. Le vieux bâtiment résonne des éclats des exercices et des gammes, mais dans la grande salle d'audition, c'est le silence qui pèse. Jeanne, menue silhouette aux cheveux bruns tirés en arrière, porte une concentration fiévreuse des enfants prodiges et ce mélange de timidité et d'audace qui fait les grands interprètes. À 12 ans, elle passe devant le jury, redoutée pour tenter de décrocher le Grand Prix, cette distinction qui ouvre les carrières et scelle les réputations. Le morceau imposé est de Camille Saint-Saëns, un compositeur encore en vie à cette époque, figure du romantisme français, respecté et redouté pour l'exigence de son écriture. Saint-Saëns, c'est l'élégance classique et la virtuosité. Et pour une jeune fille, c'est aussi porter haut la bannière de toutes celles qu'on entend et qu'on attend encore dans l'ombre. Jeanne est au piano, un air rare, aux touches d'ivoire. Autour d'elle, les regards du jury, des professeurs. Elle pose ses mains sur le clavier. Dès les premières mesures, quelque chose se passe. Non pas un éclat de virtuosité tapageuse, mais une précision ciselée, un sens de la ligne, un souffle intérieur qui surprend les plus sévères. Jeanne joue Saint-Saëns comme on raconte une histoire qu'on aurait vécue avec cette fraîcheur grave que seuls les très jeunes ou les très vieux savent donner, renote. Au fur et à mesure du morceau, on oublie le jury, la salle, les contraintes, on n'entend plus qu'elle, son toucher clair et souple, capte les moindres nuances, effleure les silences et fait jaillir les éclats comme des bulles de lumière. Quand la dernière note se suspend dans l'air chaud, un moment d'arrêt, un silence presque respectueux, puis le jury acquiesce lentement et les applaudissements suivent. Thank you. Nous venons d'écouter le concerto pour piano numéro 3 en mi majeur opus 29 de Camille Saint-Saëns, interprété par l'Orchestre Philharmonique Royal et dirigé par l'inclassable André Prévin, avec au piano Jean-Philippe Collard. Pour départager les étudiantes, une dernière épreuve est annoncée, celle très redoutée de la lecture à vue. Il est 16h30 et les pianistes découvrent deux pages de musique qu'elles vont devoir déchiffrer. Il s'agit d'un prélude, celui que l'on écoute, écrit pour l'occasion par Maurice Ravel. Un rythme lent, un concentré du style de Maurice Ravel, des pièges à chaque mesure, tout est contre-intuitif, rien ne tombe facilement sous les doigts, la main gauche et la main droite des pianistes se chevauchent. Cependant, quel succès pour la petite Leleu qui déchiffre si bien que la page ingrate devient sous ses menus doigts lumineux, moins amorphe, on croit la comprendre et l'interprète y met du sien, dirait-on. Contrairement à ses camarades, Jeanne Leleu prend son temps. Elle ne se fait pas avoir par les fausses répétitions de la mélodie, toujours changeante. L'écriture et les harmonies originales de Ravel lui semblent naturelles. Son interprétation du prélude de Ravel finit de convaincre le jury. Jeanne Leleu obtient le premier prix du conservatoire. Jeanne Leleu vient de remporter le grand prix du conservatoire et dans la mémoire de ceux qui l'avaient entendue ce jour-là, elle n'était plus une enfant prodige mais une musicienne à part entière. C'est un de ces jours rares où l'art dépasse l'exercice, où une élève devient héritière d'une tradition et où la musique de Saint-Saëns entre les mains d'une enfant reprend un souffle neuf. Il faut dire que Jeanne Leleu connaît bien la musique de Maurice Ravel car 3 ans plus tôt, c'est elle qui avait participé à la création de la suite pour piano « Ma mère Loy ». Et on écoute « Ma mère Loy » piano pour 4 mains, interprété par Hay et Erwin Poelstra au piano.
Thank you.
Nous venons d'écouter Ma mère Loy, piano pour quatre mains, interprété par A et Erwin Poelstra au piano. En 1923, Jeanne Leleu, elle devient la deuxième femme de l'histoire à obtenir le Grand Prix de Rome après Lili Boulanger en 1913. Elle remporte ce Grand Prix avec sa cantate Béatrix sur un livret d'Henri-François-Félix de Bornier. Elle enseigne ensuite à l'École normale de musique dans les années 1930, puis devient directrice de la musique dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de 1937 à 1948. En 1947, elle est nommée professeure de déchiffrage au Conservatoire de Paris, puis professeure d'harmonie de 1952 à 1967. Atteinte d'une maladie neurodégénérative depuis le début des années 1960, Jeanne Leleu cesse peu à peu de jouer en concert et de défendre ses compositions. Cette grande dame de la musique méconnue du grand public meurt à Paris le 11 mars 1979. Nous allons écouter une œuvre de Jeanne Leleu, Quatuor pour piano et cordes, Prélude.
Thank you.
venons d'écouter Quatuor pour piano et cordes, interprété par Celia Onetta Bensei, Alexandre Pascal, Léa Enino et Héloïse Luzzatti, une œuvre de Jeanne Leleu. Avant de retourner dans notre salon, nous restons un court instant en Bretagne, car Jeanne Leleu nous dit: je préfère vivre simplement et n'être préoccupé que de bien écrire. Les compositeurs de ma génération sont pressés, pressés d'être joués ou de gagner de l'argent. C'est compréhensible. Moi, j'écris lentement et je veux que ce soit pour mon seul plaisir. Aucune considération d'aucune sorte n'entre en jeu quand il s'agit de ma musique. Je gagne ma vie en donnant des leçons de piano et en apprenant la composition à des jeunes filles dilettantes qui veulent savoir assez de choses pour comprendre la musique. Je dois avouer que les droits d'auteur ne rapportent presque rien. Nous sommes de retour dans notre salon, mais debout, devant nous, se tient Karina Gauvin. Elle nous sourit, elle a tant de choses à nous raconter. Karina Gauvin est née à Montréal en 1975, dans un milieu où la musique est une seconde nature. Dès son enfance, elle se découvre une passion pour le chant et la musique, et plus particulièrement pour le répertoire baroque. Mais ce qui rend son parcours vraiment unique, c'est sa facilité à fusionner les styles et à réinterpréter les œuvres classiques avec une touche de modernité, tout en conservant la pureté des traditions. Karina Gauvin a étudié au Conservatoire de musique de Montréal, où elle se perfectionne en chant classique et affine sa technique. Sa voix est brillante, elle attire rapidement l'attention des professionnels et elle débute sa carrière en tant que soliste dans de prestigieuses productions. Très vite, les plus grandes scènes lyriques d'Europe et du Canada l'accueillent et elle s'impose comme une figure majeure de la scène musicale internationale. Ce qui distingue Karina Gauvin des autres sopranos, c'est sa maîtrise exceptionnelle du répertoire baroque, un domaine où sa voix semble littéralement fusionner avec la musique. Elle a collaboré avec de nombreux chefs d'orchestre et ensembles prestigieux tels que les Violons du Roi, la Chambre baroque ou encore l'Orchestre symphonique de Montréal. Ses interprétations des œuvres de Haendel, Vivaldi, Bach et Purcell sont particulièrement saluées par la critique. Karina Gauvin rend chaque texte vivant. Elle ne se contente pas de chanter, elle l'interprète, elle vit la musique. Son talent vocal transcende les simples partitions et elle s'imprègne de chaque mot qu'elle chante, de chaque sentiment qu'elle délivre. Au fil des ans, Karina Gauvin a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail exceptionnel. Parmi ceux-ci, on compte des nominations au prix Juno. Elle dirige des masterclass et partage son expertise, son charisme et son élégance sur scène sont autant de raisons pour lesquelles elle fascine les publics du monde entier. Mais ce soir, Karina Gauvin nous emmène au Québec pour nous raconter l'histoire d'une de ses ancêtres, Marie Hubert, une fille du roi, et nous sommes en 1663. En 1663, à des milliers de kilomètres de la France, dans les terres sauvages du Québec, un appel résonne à travers le pays. Mariez-vous, fondez des foyers, bâtissez la future nation. Des femmes de tout horizon, orphelines, paysannes, filles de labeur, sont choisies non par hasard, mais pour une mission. Leur nom, les filles du roi. Elles n'ont rien ou presque rien à part leur courage et leur désir de fonder une nouvelle vie dans ce territoire d'une froideur glaciale et d'une immensité écrasante. Mais leur destin va changer le visage du Québec à jamais. Les filles du roi n'étaient pas des aventurières à la recherche de gloire, elles étaient des femmes ordinaires, choisies dans un pays en crise, là où la pauvreté sévissait. Beaucoup étaient issues des pauvres quartiers de Paris, de Rouen ou de villages reculés, même de la Salpêtrière. Elles n'avaient ni famille, ni fortune, mais elles étaient portées par une promesse, celle d'un nouveau départ, un départ vers un avenir incertain, vers un pays encore presque inconnu, à peine effleuré par les yeux des Français. Le Québec, une terre de promesses, mais aussi de dangers. Le voyage en mer, l'isolement des longues traversées, la fragilité du climat nordique étaient autant de défis pour ces jeunes femmes qui n'avaient souvent jamais vu autre chose que leur ville natale. Mais elles ont fait le choix de quitter leurs racines, leurs repères, pour se lancer dans l'inconnu, poussées par un idéal, celui de participer à l'aventure collective de la Nouvelle-France, des survivantes devenues mères fondatrices. Arrivées en terre canadienne, leur mission ne s'arrête pas à l'embarquement. Il s'agit désormais de reconstruire une société. Ces femmes ne sont pas seulement des épouses, elles sont des bâtisseuses de famille, des architectes d'une société qui doit survivre à tout prix. Leur rôle ? Peupler la colonie. Non pas pour remplir des casernes ou des bâtiments, mais pour donner naissance à une population pérenne qui résistera à l'envahisseur, qui restera fidèle à sa culture et à sa foi. Leur pouvoir est immense. En donnant la vie, elles transforment à jamais le destin de ce pays. Elles ont survécu aux rigueurs de l'hiver québécois, aux guerres, aux épidémies. Et ce qu'elles ont laissé derrière elles n'est pas seulement une longue lignée de descendants, mais une légende. Les filles du roi sont devenues, malgré elles, des pionnières de la résilience et de l'adaptation humaine forgées par les défis d'un monde nouveau. Aujourd'hui, les filles de roi sont parfois oubliées dans les livres d'histoire, mais derrière chaque nom, chaque visage gravé dans les archives, se cache l'histoire de femmes fortes, courageuses, prêtes à tout pour donner un avenir à leurs enfants. Chaque génération québécoise qui se revendique de ses ancêtres trouve en elles la force de reconstruction. Leur héritage est vivant, porté par des familles qui, encore aujourd'hui, se souviennent de l'importance de ces premières ancêtres venues du vieux continent pour bâtir ce pays. Marie Hubert, fille du roi. À travers un répertoire de chansons folkloriques de France et de Nouvelle-France, elle y raconte la vie de son ancêtre Marie Hubert, arrivée dans la colonie en tant que fille du roi, mariée deux fois et mère de cinq enfants qui peupleront la colonie comme le voulait Louis XIV. Et puisque le mois de mai arrive, on commence avec cette chanson. Les textes sont d'auteurs inconnus, interprétés par le quatuor Molinari et l'orchestre de chambre de Claude Lapalme avec Karina Gauvin. Soprano.
Par derrière chez ma tante, il y a d'un bois joli. Leur seigneur chante, il joue la nuit. Guinola, guine rosier, du joli bois de mai. Il chante pour ses belles. Ils n'ont pas de mari, ils ne chantent pas pour moi, car j'en ai un joli. Ils ont la gueule rosier du joli bois de mai. Il est dans la Hollande, le Hollande est mon prix, que donneriez-vous belle qu'il naîtrait ici. Si la mienne qui
Thank you.
Nous venons d'écouter des chants d'inconnus réinterprétés par Karina Gauvin pour le disque Marie Hubert, fille du roi, interprété par le quatuor Molinari avec l'orchestre de chambre de Claude Lapalme. Du Québec, nous allons directement en Bulgarie avec Albena Petrovic. Albena Petrovic est née en 1965 à Sofia, en Bulgarie. Elle est une compositrice, pianiste et artiste de la musique contemporaine. Son parcours est un chemin semé d'obstacles, mais aussi de réinventions artistiques. Très jeune, elle est imprégnée de la culture musicale de son pays natal, mais c'est dans l'exil qu'elle va véritablement se découvrir et se réinventer. En grandissant en Bulgarie, Albena est formée dans les institutions musicales de renom et sa voix en tant que compositrice trouve une résonance particulière dans la musique contemporaine. Elle se familiarise avec des formes expérimentales et s'inspire des richesses de la musique traditionnelle bulgare et des expérimentations modernes. Cependant, son pays sous un régime autoritaire n'offre pas à l'art la liberté de création à laquelle elle aspire. Alors dans les années 1990, après la chute du mur de Berlin, Albena se sent poussée à quitter sa terre natale pour s'établir au Luxembourg. Ce changement géographique est également un changement d'état d'esprit et c'est le début d'une longue exploration musicale et personnelle. Le Luxembourg, un carrefour d'influences culturelles européennes qui devient le terreau idéal pour l'épanouissement de son art. L'exil n'est pas seulement une question de géographie pour Albena, c'est une métaphore de sa propre évolution intérieure, une réinvention d'elle-même, d'une identité à reconstruire. Elle compose The Voyageur, c'est un disque et c'est le climax de sa quête personnelle artistique. C'est une œuvre qui symbolise à la fois son exil intérieur et son voyage à travers les cultures et les influences musicales. The Voyageur n'est pas seulement une œuvre musicale, c'est une représentation sonore de l'âme en quête de liberté. Dans cette composition, Albena Petrovic se fait la voix d'un explorateur intérieur, un voyageur qui s'échappe des contraintes sociales et géographiques pour plonger dans un monde intemporel où l'art se nourrit de chaque expérience vécue. Le concept derrière The Voyageur est l'expression d'un mouvement constant, celui de l'âme humaine, cherchant son chemin dans un monde en perpétuelle transformation. La pièce se déploie dans une série de thèmes musicaux fluides et modulables. La musique est à la fois ouverte et en constante évolution. Elle reflète le parcours de Petrovic elle-même, de la recherche de ses racines, de sa réinvention en tant qu'artiste globale. Avec ce voyageur, Albena Petrovic fusionne les sonorités traditionnelles bulgares et l'influence de la musique contemporaine et des expérimentations électroniques. Elle joue avec des textures sonores inhabituelles allant de l'électroacoustique à des passages plus lyriques et orchestraux, tout en créant une dynamique de voyage dans le temps et l'espace. Lorsque l'on écoute ce voyageur, on comprend que cette œuvre n'est pas seulement une représentation musicale de la notion de voyage. Elle devient un moyen de reconstruire des ponts entre des mondes éloignés, un moyen pour Albena Petrovic de reconstruire à travers son art ce qui a été brisé, que ce soit par l'exil, par les épreuves de la vie ou par la confrontation de différentes cultures et histoires. Albena Petrovic, on écoute The Dark, opus 138, réinterprété par Véronique Nussbaum, soprano, et Romain Nussbaum au piano.
C'est prendre une année sabbatique et faire le tour du monde et faire le tour du monde. Ah.
éternel voyageur, escalader l'Everest et descendre aux enfers. Chakam hi hoshte chakam, chakam hi hoshte chakam, chakam hi hoshte chakam, chakam hi hoshte chakam. Qui va venir? Et oui, j'attends le caron, j'attends mon caron. Tu attends ton caron. C'est comme si nous attendions le Godot. J'attends mon caron.
Nous venons d'écouter un extrait de The Dark, interprété par Véronique Nausbaum, soprano, et Romain Nausbaum au piano, une œuvre de Albéna Petrovnik.